Je suis très heureuse d'accueillir le prochain exposé, Luisa Valente. Je suis désolée, j'ai oublié mes lunettes, donc je ne dirai pas le titre de ton exposé, mais de mémoire, je te connais assez pour te présenter. Donc Luisa, une élève d'Alfonso Maiero, une élève à moi aussi, puisqu'elle a fait sa thèse qui a donné ce très beau livre sur art du langage et théologie au XIIe siècle, un travail très important qu'elle a poursuivi, qui est vraiment logique et théologie, et qu'elle a poursuivi ensuite avec des travaux importants sur Gilbert de Poitiers, pour lesquels elle nous a fait des conférences récemment, et nous espérons avoir un petit livre de synthèse sur les théories de Gilbert, dont Richard nous a montré tout à l'heure la complexité. Et donc maintenant, on va l'accueillir pour sa communication, dont tu liras le titre, parce que j'ai oublié mes lunettes, je suis absolument condamnée à... présider de mémoire.
Bonjour et merci Irène pour la présentation et merci surtout aux organisateurs du colloque pour m'avoir invité. Le titre de ma conférence est Philosophie et théologie selon Pierre Abélard et Gilbert de Poitiers. Depuis le célèbre livre de 1927 du chercheur américain Charles Homer Haskins, intitulé de manière significative Renaissance of the 12th century, le deuxième siècle est le plus souvent qualifié de siècle de Renaissance, au sens au moins des consommants innovateurs. En ce qui concerne la vie intellectuelle en Europe, différents phénomènes peuvent en effet être considérés comme des indices du caractère fortement innovateur du deuxième siècle. L'augmentation du nombre des écoles et leur dynamisme, en particulier dans le nord de la France, le fait qu'à cette époque, on lit et on étudie davantage les ouvrages antiques grecs et romains, des mathématiques et des sciences, mais aussi de littérature et de philosophie, l'intérêt des latins pour le monde de l'islam, avec la recherche et la traduction en latin des textes arabes, essentiellement scientifiques dans un premier temps, philosophiques aussi plus tard, Les grands essors des études de grammaire, de dialectique et de rhétorique qui entraînent la production de traités originaux ainsi que des commentaires aux textes plus anciens. Ce sont là les débuts de la fameuse grammaire spéculative et de la logica modernorum. L'assimilation, à partir de la deuxième moitié du siècle, de la logica nova, à savoir des œuvres de l'organon aristotélicien qui ne faisaient pas partie du répertoire de la logica vetus, des réfutations sophistiques, topiques, première et seconde analytiques. Enfin, last but not least, une nouvelle approche des thèmes cruciaux de la foi chrétienne, plus spéculative, rationnelle, philosophique qu'exégétique. On a parlé à ce propos d'une progressive différenciation au XIIe siècle de la sacra doctrina par rapport à la sacra pagina. Or, Pierre Abélard et Gilbert de Poitiers sont à peu près universellement considérés comme les représentants exemplaires du renouveau du XIIe siècle latin, en ce qui concerne au moins la philosophie et la théologie. Grand connaisseur des disciplines du langage et souteneur passionné de la méthode scientifique, ils ont tous deux revendiqué avec force les potentialités et la richesse du savoir philosophique et de la raison naturelle, qu'ils conçoivent comme force motrice également de la théologie. C'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle Abélard et Gilbert ont tous deux fait l'objet d'attaques virulentes de la part de certains partisans d'une conception du christianisme plus étroitement liée à la tradition et à l'autorité scripturaire et patristique. Animés par un esprit essentiellement antiphilosophique, ceux-ci voyaient l'intervention de la raison in divinis comme une sorte d'intrusion et un danger insidieux. Inutile d'insister sur la persécution des deux maîtres, à laquelle participa entre autres le grand rabbin cistercien Bernard de Clairvaux, et qui a donné lieu à deux condamnations pour Abélard et à une quasi-condamnation pour Gilbert. Abélard et Gilbert sont donc généralement présentés dans le cadre des études historico-philosophiques et historico-théologiques comme deux novateurs qui défient la tradition, paladins de la philosophie, et parmi les principaux fondateurs de la méthode scolastique ou de la théologie rationnelle. Une lecture attentive des textes montre cependant que l'attitude positive et confiante à l'égard de la rationalité, de la science et de la philosophie qui caractérise la pensée d'Abélard et de Gilbert est profondément enracinée dans ces mêmes terrains plus traditionnels auxquels se référaient leurs adversaires, même les plus féroces. Cela a été mis en évidence depuis longtemps déjà pour Abélard dans des recherches sur les liens de sa pensée avec l'idéal monastique et avec la pensée d'Augustin. Je pense par exemple à des travaux publiés il y a quelques décennies déjà, entre autres ceux de Jean Leclerc et de Pietro Zerbi, ou aux études plus récentes de Tobias Georges. Un examen plus attentif montre en effet qu'Abélard et Gilbert adhèrent pleinement à la conception du système de savoir hérité des pères et du haut Moyen-Âge qui voit la théologie comme l'aboutissement et le perfectionnement de la philosophie et le savoir auquel les autres disciplines doivent être soumises, telles des servantes. Vu sous cette nouvelle perspective, alors, les propositions méthodologiques et les réflexions logiques et épistémologiques raffinées introduites par les deux maîtres, Abélard et Gilbert, ne semblent pas être des innovations radicales, mais plutôt le résultat de réélaboration personnelle de l'ancienne conception platonicienne, néoplatonicienne et stoïcienne, puis chrétienne, de la philosophie comme le plus haut degré de perfectionnement de l'homme et comme parcours ascendant qui part du sensible pour s'élever vers l'intelligible et tendre vers le divin. Un itinéraire de connaissances, mais aussi de purification et d'ascèse, réservé, en particulier dans ses degrés supérieurs, à des traits rares élus. Un itinéraire dont nos deux auteurs pouvaient trouver les témoignages dans les écrits d'autorité de tout premier ordre, tels qu'Augustin, Macob et Boèse, entre autres. Pour étayer cette thèse générale, à savoir le caractère traditionnel fondamentalement néoplatonicien, mais aussi stoïcien, patristique et dans une certaine mesure monastique de la conception de la philosophie d'Abélard et de Gilbert, je voudrais analyser et comparer dans cette intervention les opinions des deux maîtres à propos de la division de la philosophie et des différents types de philosophes. J'essayerai donc d'approfondir l'essence que prennent chez chacun des deux penseurs l'idée qu'ils partagent selon laquelle la théologie est une partie de la philosophie, vue comme un tout, la philosophie, ou la théologie une espèce de la philosophie considérée comme un genre. Je me concentrerai en particulier pour Abélard sur les collationes ou dialogus inter philosophum judeum et christianum et sur la théologia cristiana, et pour Gilbert de Poitiers, sur son commentaire au De Domadibus de Boèse. Les collationes d'Abélard, écrites probablement à Saint-Gilda entre 1127 et 1131, composent de deux dialogues qui traitent principalement, mais non exclusivement, de la question de savoir quelle est la forme la plus rationnelle de la foi religieuse et de ce qu'est le bien suprême. Le premier dialogue a lieu entre le philosophe et les juifs, le second entre le philosophe et les chrétiens. Parmi les personnages de collationes, le chrétien est celui dont les affirmations sont les plus proches des positions défendues par Abélard même, auteur, dans les restes de sa production. Mais Abélard a également souscrit à quelques-unes des thèses avancées dans les collationes par les philosophes. Je considère donc les affirmations prononcées par les chrétiens ou par les philosophes dans les collationes comme des thèses effectivement soutenues par Abélard dans la mesure où ces dernières sont explicitement défendues dans ses autres œuvres. Voyons d'abord quelques aspects de la philosophie telle qu'elle est décrite dans les collationes par le personnage du philosophe. Celui-ci déclare avant tout qu'il ne s'appuie que sur la loi naturelle et non sur les textes révélés, qu'il poursuit la vérité selon des critères rationnels et suit en toute chose la guide de la raison. Mais le philosophe, des collationes, n'est pas pour autant un incrédule. En effet, il croit dans le même et unique Dieu que ses interlocuteurs, les juifs et les chrétiens. La philosophie professée par les philosophes de Collationes n'est donc pas dépourvue d'un caractère religieux. De son côté, les chrétiens de Collationes rappellent que la loi naturelle que suit les philosophes provient finalement, elle aussi, de celui dont provient la vraie Sophia. Aussi, quiconque cultive Dieu, en cultivant la vraie sagesse, est un vrai philosophe, affirme-t-il. Comme le démontre leur présence dans plusieurs de ses œuvres, la représentation de la philosophie comme forme de vie religieuse et celle symétrique des chrétiens comme des vrais philosophes sont effectivement des thèses fondamentales dans la pensée d'Abélard. Il en parle dans la théologie cristiane, mais la thèse la plus explicite à cet égard est l'épître 13, dirigée contre certains docteurs détracteurs de la théologie et datant probablement des années 30. Par ailleurs, quand Abélard utilise la formule « Christiana philosophia », il entend souvent explicitement la vie du cloître. « Christiana philosophia est monastica prerogativa », lisons-nous dans l'épître 7. Et Origène est appelé Christianorum philosophus et Magnus et Maximus Christianorum philosophus dans l'Historia Calamitatum et dans les épîtres 5, 7 et 8. En somme, le vrai philosophe pour Abélard, de moins à cette époque, dans les années 20 et 30, le vrai philosophe est le christian, ou la vraie philosophie est le christianisme. Selon une équation des matrices augustiniennes, très répandue chez les pères et dans la tradition monastique du haut Moyen-Âge. Il faut toutefois préciser qu'Abélard interprète cette conception, et c'est là, selon moi, que réside la particularité et l'intérêt de sa position, non pas dans le sens d'une dévaluation de la philosophie païenne, mais bien au contraire, dans le sens d'une exaltation de celle-ci. En particulier, les deux parties de la philosophie qu'Abélard exalte le plus et qu'il pratique le plus sont la logique et surtout l'éthique. La logique comme manifestation de l'illumination de la grâce divine dans l'être humain à travers la raison naturelle, l'éthique qui, parce qu'elle cherche à connaître le bien suprême, finit par être identifiée à la science de Dieu, à savoir à la théologie pure et simple. Arrêtons-nous sur cet aspect de l'identification de l'éthique et de la théologie. Dès le début des Collationes, la philosophie pratiquée par les philosophes se caractérise comme une éthique. Dans les premières répliques, il y a un handout, c'est le texte 1 dans votre handout. Dans les premières répliques des Collationes, le philosophe se pose en effet un expert de la philosophie morale, bout de toutes les autres disciplines qui recherchent le bien suprême, le mal suprême et comment parvenir au vrai bonheur. Je lis seulement les propositions en grave du texte, en traduction. Je me suis rapproché, c'est le philosophe qui parle, je me suis rapproché de la philosophie morale, qui est la perfection de toute discipline et celle pour laquelle toute autre étude doit être goûtée. Prélibanda. Le passage qui marque un tournant dans les dialogues est celui où les chrétiens acceptent la thèse du philosophe selon laquelle l'éthique est la forme la plus élevée du savoir. En effet, les chrétiens convainquent alors les philosophes, le texte numéro 2, les chrétiens convainquent les philosophes de reconnaître l'identité de l'éthique des philosophes et de la divinitas, à savoir la science de Dieu, des chrétiens. Elles, les deux, éthique et divinitas, elles auraient tous deux le même objet, Dieu, envisagé selon des points de vue différents. Les chrétiens appelleraient cette science divinitas parce que Dieu est ce vers quoi on tend en elle à travers la compréhension. Les philosophes l'appellerait au contraire éthica, dans la mesure où elle indique la divinité, indique les comportements à travers lesquels on attend Dieu, à savoir les vertus. Le philosophe déclare alors formellement d'accepter et d'approuver pleinement l'identité d'éthica et divinitas. Il dit « Assentio quod clarum est », je suis d'accord, la chose est évidente. Les chrétiens et les philosophes, texte 3, sont également d'accord sur le but de l'éthique ou divinitas, à savoir révéler, apparire, quel est le bien suprême et à travers quel parcours les hommes peuvent l'atteindre. Là encore, le philosophe est d'accord. C'est le chrétien qui parle. L'essence ultime de cette discipline est, je pense, celui-ci, qu'elle nous permette de connaître ce qu'est le bien suprême et par quelle voie nous pouvons y arriver. Et le philosophe répond « Placet utiqui vehementer ». Le philosophe semble même aller plus loin que les chrétiens en faisant de la théologie, la divinitas, la partie la plus élevée de la philosophie. Test 4. De même que les biens suprêmes dans la jouissance duquel consiste le vrai bonheur, dit-il, le philosophe, de même que les biens suprêmes dans la jouissance duquel consiste le vrai bonheur est supérieur à toutes les autres choses, de même la discipline qui s'en occupe est supérieure à toutes les autres disciplines. Le système du savoir est donc présenté par les philosophes comme une échelle ascendante dont les marches tendent tout vers la plus haute et la servent. Ce n'est que dans l'éthique théologie que se trouve le bout et la tranquillité au terme du parcours. Les autres disciplines ne sont que des moyens. Il faut les traverser, mais les laisser derrière soi pour passer outre. Comme objet des sciences qui sont au service, pédis, c'est le mot utilisé par les philosophes, comme objet des sciences qui sont au service de l'éthique divinitas, qui est leur domina, leur maîtresse, Abélard indique dans ces passages les genres du discours, genera locutionum, et les natures des choses, rerum nature. Voulant faire allusion avec les premières, me semble-t-il, à la logique, et avec les secondes, les natures rerum, à la physique. Cette représentation du système du savoir consiste donc, si je ne me trompe pas, à une application de l'image traditionnelle des arts libéraux comme servante de la théologie à la division de la philosophie en logique, physique et éthique. Vous pouvez regarder les premiers des trois tableaux qui sont sur le handout, après le texte numéro 4. Cette division, la première, pratiquée dans l'Antiquité tardive par les stoïciens et au Moyen-Âge dans le milieu monastique, fait concurrence au XIIe siècle à celle dérivant du livre Epsilon de la métaphysique d'Aristote à travers Boès, dont nous avons parlé avant, qui divise cette seconde, la philosophie en théorétique et pratique, et puis la théorétique ou spéculative, en naturalis, mathematica e teologica, dalla terminologia utilizzata par Boès dal De Trinitate. Abélard connaît cette division, la division en trois de la philosophie en physica, logica et etica. Il la connaît déjà dans la tradition des arts du Trivium, puisqu'elle est mentionnée, par exemple, dans les différents topici de Boès, qu'Abélard commente probablement dans les années 20 aussi. Boès dit, dans le texte numéro 4, toute question née de la façon de discuter, ex ratione discerendi, de la spéculation naturelle, ex naturali, vel ex morali, traitur speculazione, de la spéculation naturelle ou de la spéculation morale. En commentant ces passages, texte numéro 6, Abélard conteste bien sûr l'affirmation de Boès selon laquelle toutes les questions naîtraient de la logique, de la physique et de l'éthique. Mais il semble considérer comme acquis le fait que cette triade serve en effet en tant que division des sciences philosophiques. Abélard, c'est le texte numéro 6, Abélard retrouve la tripartition logica, physica et etica dans les écrits d'Augustin et surtout dans le huitième livre de Civitate Dei, l'une des sources les plus importantes pour sa conception de la philosophie, dans lesquelles cette division est amplement développée, au chapitre 4, 16, 7 et 8. L'adhésion d'Abélard à la tripartition stoico-augustinienne de la philosophie, à l'arrière-plan dans les collations, est explicite dans la théologie cristiana, où cette tripartition est présentée comme un parcours à la fois ascendante et circulaire. La physique, peut-on lire, texte 7, La physique est cette partie de la philosophie qui consiste en une connaissance certaine des causes des choses. Mais on n'attend pas la connaissance des causes les plus profondes et les plus cachées de toutes choses qu'en s'élevant, concendamus, en s'élevant grâce à la contemplation de l'esprit vers les lieux où telles causes sont stables et muables, à savoir la volonté même du Créateur. Encore le texte 7, mais la première étape, primus gradus, cependant, pour affronter la philosophie de la nature et toute autre partie de la philosophie, consiste, comme l'a affirmé Socrate, à purifier sa propre vie grâce aux bonnes mœurs. L'éthique, donc, dans un sens, n'est pas seulement le point culminant, mais aussi le point de départ de toute discipline philosophique. Ethicam in omni philosophia primum gradum prefigeret. Un peu plus loin, dans le même texte, et toujours dans l'assillage du huitième livre du De Civitate Dei, texte 8, Abélard rappelle également qu'en Platon, auquel il accorde toute son approbation, définissait Dieu comme le bien suprême et philosophait comme aimer Dieu, texte 8. Et cite, Abélard, un long passage du chapitre 4, toujours du huitième livre de Civitate Dei, dans lequel Augustin affirme selon Platon et ses disciples, Dieu souverain bien est l'objet de chaque partie de la philosophie, de la physique ou philosophie de la nature en tant que cause de la subsistance de toutes choses, de la logique ou philosophie rationnelle en tant que raison de l'intelligere et de l'éthique ou philosophie morale en tant qu'ordre du vivere. En acceptant la triade de l'Antiquité tardive, logique, physique et éthique, Abélard doit cependant trouver une place dans le système pour la théologie. Or, comme nous l'avons dit, il tente dans ses œuvres théologiques à identifier la science de Dieu avec l'éthique, comme science du bien suprême. Bout et achèvement des deux autres parties de la philosophie, la physique et la logique. Il est bon de souligner que le maître utilise le terme théologia exclusivement pour qualifier son propre texte sur la Trinité, avec des expressions comme quidam theologiae tractatus de unitate trinitate divina et semblable. En général, pour indiquer la science du divin et en tant que telle, Abélard utilise plus traditionnellement les formules sacra lectio, divina lectio, divinitas ou, et ceci est particulièrement significatif pour mon propos, vere philosophiae lectio ou philosophia divinitatis, à savoir la philosophie du divin. C'est dans la théologie du souverain bien, troisième livre 101. Dénomination philosophie du divin et les autres qui illustrent clairement la conception abélardienne selon laquelle la philosophie et la théologie ne s'opposent pas comme deux embrassements ou deux alternatives, mais sont la seconde, la théologie, une partie la plus élevée et la plus parfaite de la première, la philosophie. Abélard compare d'ailleurs, texte 9, la contemplation du moine entièrement concentrée sur l'atteinte de la vision de Dieu et la contemplation des philosophes, contemplatio philosophorum, que Macrobe attribue aux philosophes, distinguant leur vie, la vie des philosophes, de celle des hommes politiques dans son commentaire sur les songes de Scipion, commentaire au texte de Cicéron, les songes de Scipion. J'ai lu le texte numéro 9. La vie solitaire et contemplative est bien plus méritoire. Par la vie contemplative, l'ardeur de l'amour de Dieu nous élève et nous soutient dans la contemplation de la vision divine. Je saute une ligne. Le commentaire même de Macrobe n'a pas manqué de démarquer ce fait lorsqu'il a distingué la vie active des gouvernements de la contemplation des philosophes. En effet, les commentaires macrobiens aux songes de Scipion sont un autre texte fondamental à côté du livre 8 de Civitate Dei d'Augustin pour la constitution de la conception abélardienne de la philosophie. Comme il a été déjà remarqué dans un article magistral de Thomas Ricklin, intitulé significativement Fondem beatores philosophi zu den optimus status hominis, sur entradicalisirum de radicalem aristotelica. Un article paru dans l'année 2000. Reprenant, entre autres, la subdivision macrobienne entre les philosophes en voie de purification, et ceux dont l'âme est déjà purifiée, Abélard utilise, les textes disent, le terme philosophantes pour désigner les philosophes en voie de purification et le terme divini pour indiquer les plus parfaits parmi les philosophes, les plus purs. Rapprochons par analogie les philosophantes des moines cénobites et les philosophes divins des moines anachorètes ou ermites. Le caractère à la fois ancien, religieux et monastique de la conception abélardienne de la philosophie apparaît également dans la description qu'il donne des villes des philosophes anciens dans le deuxième livre de la théologie christiane, chapitre 45. Ceux-ci, les philosophes anciens, auraient selon lui réellement fondé et organisé des villes ensuite en suivant à la fois la droite raison et, les préceptes évangéliques de l'amour pour du prochain. Dans la description des villes des philosophes, texte 12, qui fait clairement écho à la République de Platon, connue par Abélard à travers les Timées, Abélard remplace les trois classes du texte platonicien, travailleurs, guerrières et gouvernants philosophes, par la triade coniugati rectores continentes, les gens mariés, les gouverneurs, gouvernantes, et les moines, ou les continents, les abstinents. Les trois groupes, coniugati rectores continentes, des membres de l'Église qui, à partir d'Augustin et de Grégoire, arrivent à Abélard même à travers la tradition du Haut Moyen-Âge. Selon les maîtres palatins, la forme la plus élevée des vies dans ces villes, dans les villes fondées par les philosophes, était la vie purement contemplative que les philosophes avaient choisie pour eux-mêmes et qui aurait été en tout et pour tout semblable à celle des clercs et des moines chrétiens. Texte 11. Je le lis. Les philosophes ont institué la vie des villes et de leurs gouvernants sur la base de justes raisons concernant la vie. Ils ont institué, selon la prédication évangélique, les philosophes. Selon la prédication évangélique, la vie des gens est déjà mariée et des gouvernants et des continents. Pour eux-mêmes, les philosophes ont choisi la vie des continents et des abstinents, la même vie que déclarent maintenant vouloir suivre les clercs et les moines. Prenons maintenant en considération la représentation du philosophe et de la philosophie que l'on trouve dans les écrits de Gilbert de Poitiers. Contrairement à celle d'Abélard, la vision gilbertienne de la philosophie est foncièrement théorétique. Il manque, chez Gilbert, cet aspect expérientiel et cette conception de la philosophie comme forme de vie qui sont centrales chez Abélard et marquent son appartenance authentique au monde monastique, au moins à partir de l'époque de la théologie chrétienne. Pour Gilbert, la philosophie est moins celui... Pour Gilbert, le philosophe est moins celui qui aime Dieu que celui qui cherche à connaître les raisons des choses. Contrairement à Abélard, Gilbert reprend à son compte le schéma boétien des sciences théorétiques, la seconde et la troisième triade que vous voyez dans le schéma de l'handout, après le numéro 4. Pour lui, pour Gilbert, la théologie est la plus élevée des sciences théorétiques, précédée par la philosophie de la nature et par les mathématiques. À ces propos, on retiendra en particulier la distinction que fait Abélard entre le naturalis philosophus et le philosophus theologicus. Une distinction qui, face à l'identification abélardienne entre philosophie morale et divinitas, semble en revanche annoncer la séparation entre philosophie naturelle et théologie, à laquelle on assistera, même du point de vue institutionnel, au siècle suivant. Gilbert utilise la distinction entre philosophe naturel et philosophe théologique, en particulier dans les commentaires au De Domadibus de Boès, dans le cadre de l'exposition du second axiome du texte boétien, c'est le passage 13. Cet axiome fondamental, dont on a déjà parlé tout à l'heure, cet axiome fondamental affirme que l'être est différent de ce qui est. Diversum est esse et id quod est. Il y a, selon Gilbert, deux façons, toutes deux valables, d'interpréter cet axiome. L'une qui relève de la facultas philosophica, l'autre qui relève de la faculta, pardon, l'une qui révèle de la facultas théologica, l'autre de la facultas naturalis. Selon la faculté théologique, on entend S comme l'essence divine en tant que principe de toute chose. Selon les philosophes théologiques, théologici, écrit Gilbert, on entend donc dans l'axiome de Boès le terme S comme le principe divin, cause de toutes les choses qui sont. En revanche, dans le langage des autres philosophes, ceux qui s'occupent des choses principiées, quae ex principio sunt, le terme S désigne les formes substantielles, grâce auxquelles les choses qui sont, sont et sont ce qu'elles sont. Je lis seulement les passages en gras de ce texte 12. Diversorum philosophorum in diversis facultatibus usu diverso esse et esse aliquid multipliciter dicuntur. Cum dicitur diversum esse et id quod est, secundum theologicos, quidem intelligitur esse id quod est principium, id quod est vero illud quod est ex principio. Sed secundum alios philosophos, esse subsistentium sole illorum quae predicantur subsistentiae. Quae vero sunt, ea tantum quae illas, etc. Sic ergo et secundum theologicos, et secundum alios philosophos, recte potest dici diversum est esse et id quod est. Sed et anc regulam, etc. quae secuntur preter septimam tam usu theologicorum, quam aliorum philosophorum, hoc loco accipi debere sequentia nos docebunt. Quand Gilbert parle de théologici, en la distinguant des ali philosophi, des autres philosophes, il utilise de toute évidence l'adjectif théologici comme attributif d'un substantif sous-entendu philosophi théologici. Nous avons donc avant tout, selon Gilbert, une distinction entre philosophes théologiques et autres philosophes. Mais qui sont ces autres philosophes et quelle relation entretient avec eux les philosophes théologiques? On trouvera quelques éclaircissements à ces propos dans un autre passage du commentaire au De Hebdomadibus, le texte 13, placé en ouverture du prologue, qui révèle chez Gilbert une conception du savoir tout autant ascendante, hiérarchique, illuminative et élitaire que celle que nous avons pu observer chez Abélard, et parfois même exotérique. De ces points de vue, le fait que Gilbert reprenne la distinction aristotélico-boétienne de la philosophie, en développant surtout la tripartition de la philosophie théorétique, alors qu'Abélard suit, comme nous l'avons vu, la tripartition augustinienne en logique, physique et éthique, ne représente pas une grande différence. Dans le prologue au commentaire du De Hebdomadibus, donc, Gilbert insère la division de la philosophie théorétique dans le cadre d'une subdivision complexe en cinq classes d'hommes et de philosophes. Le texte 13. Nous trouvons d'abord la classe la plus nombreuse, celle des hommes animaux, qui n'inspire à aucun enseignement ni n'en reçoivent. Vient ensuite la classe de ceux qui aspireraient à dépasser leurs propres limites, mais n'ont pas la capacité. Enfin, les philosophes, subdivisés en trois sous-groupes, basés sur la division de la philosophie théorique en philosophie naturelle, mathématique et théologie. Je lis le passage en gras de ce texte 13. Le mot grec philosophie veut dire en latin amour de la sagesse. Bien que les philosophes, c'est-à-dire ceux qui aiment la sagesse, se délectent de son apparence tout entière, ils ne la montrent pas entière à n'importe qui. Car dans les gens de qui elle est leur, c'est-à-dire les gens humains, les philosophes observent que, premier groupe, la plus grande partie, le plus grand nombre, pareil à des bêtes, se donne entièrement au sens et ou à l'imagination. Mais que beaucoup d'autres d'hommes s'efforcent, comme par un mouvement premier de la raison, d'atteindre ce qu'ils doivent concevoir au-delà de la sensation et de l'imagination. Parmi eux, parmi cette seconde partition, certains ne dépasse pas ces éléments matériels des significations extérieures auxquelles ils sont habitués, la sensation et l'imagination. Mais il y en a d'autres que le désir d'atteindre la vérité entraîne jusqu'à la vérité même des choses. Ceci également, les philosophes les destinent à des fonctions propres et qui leur convient. La plupart, ce troisième groupe est divisé à son tour en trois parties. La plupart des gens qui sont éduqués par les philosophes, la plupart ceux qui courent, pour ainsi dire, sur la grande route par les raisons communes et connues de tous, ils, les philosophes, les conduisent vers une image de la sagesse qui est comme esquissée dans les concrétions des choses naturelles. D'autres, un grand nombre, habitués à ces miroirs des choses naturelles, ils les appellent à rejoindre ce qu'une discipline plus haute, appelée en grec mathesis, sépare par abstraction de ces concrétions. Et enfin, ils, les philosophes, voient que d'autres, un petit membre, sont tendus d'une ardeur plus intense. Ils les conduisent à une sorte d'hôtellerie, pour ainsi dire, éloignée de la grande route des choses rationnelles, et là, comme sous le voile du secret, il leur montre de la sagesse elle-même quelque chose qui dépasse tout le reste de la dignité. Je dois la traduction à M. Dominique Poirel. Cette division, terminée la lecture du texte de Gilbert, cette division en cinq niveaux, nous pouvons en réalité la réamener à une division en trois types d'hommes qui, si l'on considère les trois derniers niveaux, 3-1, 3-2 et 3-3, comme des articulations internes d'une même typologie d'hommes, celle des philosophes. Cette division peut donc être comparée aux nombreuses triades de genres d'hommes, des types d'hommes, que l'on trouve dans les ouvrages théologiques du IIe siècle et qui ont un système hiérarchique semblable, avec les coniugati, ou travailleurs, ou hommes politiques, laïcs, hommes bêtes, situés sur l'échelon le plus bas. Les philosophes, ou dans le sens des philosophantes, sur l'échelon intermédiaire, et les sages, sapientes, ou divini, ou moines, ou ermites, sur les échelons les plus élevés. Nous trouvons des schémas de ce type chez Guillaume de Conches, Abélard, Bernard de Chartres, dans les Florilegium Morale Oxoniensis, ou encore chez Jean de Salisbury. La particularité des schémas d'Abélard et de Gilbert consiste, selon moi, à poser, et jusqu'à présent je n'ai trouvé d'autres qui les fassent, à poser le dernier échelon le plus élevé sous l'égide des philosophes. Comme on le voit, la physique, les mathématiques et la théologie sont placées par Gilbert dans un ordre hiérarchique ascendant de plus en plus exclusif, manifestant une conception du savoir encore plus élitaire et hiérarchique de celle élaborée par Abélard avec sa triade physique, logique et éthique. Selon Gilbert, cet ordre est également en rapport avec la proximité de plus en plus grande du centre de la diffusion de l'intelligence, l'acces mentis. Il montre en cela, en utilisant une terminologie d'ascendante probablement augustinienne et très répandue à l'époque dans les milieux victoriens, que de toutes les disciplines philosophiques, la physique est la plus externe, extérieure, les mathématiques sont internes, intérieures, mais seule la théologie est assez intime, sino secreti sapiens, assez intime pour pouvoir s'approcher du sens secret de la sagesse. C'est pourquoi, parmi toutes les espèces de philosophie, la théologie est pour Gilbert celle qu'il faut garder cachée aux yeux du plus grand nombre de gens. J'arrive à mes conclusions. Sans rien ôter à la portée retentissante de l'intelligence philosophique d'Abélard et de Gilbert, nous pouvons achever notre examen des points peut-être les plus traditionnels de leur pensée avec une observation sur le rapport entre ces positions et le reste de la spéculation des deux auteurs. Je crois que même une connaissance non approfondie de la pensée d'Abélard et de Gilbert permet de montrer que leur représentation des classifications de la philosophie et des philosophes en sont des points clés et des pierres angulaires et non un simple ornement ou la simple répétition de lieux communs. Dans leurs deux interprétations similaires, mais différentes, de la philosophie comme parcours ascendant, culminant dans la théologie comme son plus haut degré, se reflètent leurs différentes trajectoires personnelles et intellectuelles. La prédilection d'Abélard pour la division de la philosophie en logique, physique et éthique, et son identification d'éthique et de divinitas, tout comme du philosophe et du vrai logicien, vrai éthicien, vrai chrétien et vrai moine, reflète son parcours, le parcours d'Abélard, son parcours personnel du rapprochement de la logique qui ne sera jamais complètement abandonnée, d'une éthique, d'une théologie et d'une métaphysique qui tourne tout autour du concept du bien suprême. Un parcours réalisé en adhérant pleinement à l'idéal monastique, aussi tourmenté puisse avoir été dans la vie réelle la relation d'Abélard avec ses confrères. De façon analogue, mais différemment, la prédilection de Gilbert pour la division poétienne de la philosophie spéculative en philosophie naturelle, mathématique et théologie, la distinction nette qu'il établit entre philosophe naturel et philosophe théologique et son élitisme philosophique marqué reflètent tout aussi clairement une conception théorique plus qu'existentielle de la philosophie, plus en accord avec le monde des écoles citadines dans lesquelles la pensée de Gilbert ne prospérait pas par hasard. Il est possible, mais il faudrait que le démontrer une recherche différente de celle-ci, qu'Abélard et Gilbert aient représenté avec leurs deux conceptions, éthique et théorétique, de la théologie, deux extrêmes opposés, et que les théologiens de la seconde moitié du XIIe siècle se soient situés dans de diverses positions intermédiaires entre l'une et l'autre. Un indice de ces en ce sens pourrait être le fait qu'un maître du calibre de Landelille a, dans au moins de ces nombreuses classifications de savoir, de toute évidence cherché à englober dans un même schéma articulé les deux visions, distinguant une théologia theoretica et une theologia moralis. Quoi qu'il en soit, et pour terminer, Abélard et Gilbert empruntent tous deux à la tradition une conception de la philosophie comme élévation de l'esprit, qui, à travers l'esprit de la raison, se libère de tout lien matériel pour chercher sa perfection dans le rapprochement du principe de toutes les choses. Abélard et Gilbert transmettent ainsi à leurs lecteurs un idéal philosophique à la fois antique et potentiellement porteur de développements éclatants. Et cet idéal ne me semble pas complètement différent de celui que soutiendront avec vigueur les maîtres de la faculté des arts de l'Université de Paris environ 150 ans plus tard. Bien qu'Abélard et Gilbert soutiennent l'inclusion de la théologie dans la philosophie et non la distinction des domaines comme les maîtres arts, et bien qu'Abélard et Gilbert ne puissent pas encore, pour exalter la philosophie, se référer à l'éthique à Nicomaque d'Aristote et aux commentateurs arabes, comme le feront bientôt les maîtres universitaires, la contemplatio philosophorum et l'altior intelligentia dont ils parlent ne sont probablement pas très loin de la delectatio intellectualis de Boès de Dacy. Merci pour votre attention.